Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Les livres ont besoin d'être lus, les pages d'être tournées. On trouve cette citation de Mme Sue Townsend dans un livre qu'elle a écrit qui s'intitule « La femme qui décida de passer une année au lit », un livre sur lequel d'ailleurs je vais revenir à la toute fin de cette émission pendant la rubrique des titres en rafale.
La table des matières.
Alors bonjour tout le monde, Clotilde Seille avec vous sur les ondes de Canal M. C'est une nouvelle édition de l'émission Un livre découvert en ce 14 janvier avec quelques invités. Laissez-moi vous décliner le menu si j'ose dire. Je vais m'entretenir avec Michel Langlois au téléphone autour d'un livre de Norma Robert qui s'appelle Les Trois Sœurs. Mon invité spécial aujourd'hui c'est Sophie Durocher qui est déjà là. Bonjour Sophie.
Bonjour Clotilde, bonjour les auditeurs.
Et puis le classique de la semaine, c'est un relativement jeune classique, mais c'est déjà un classique. La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. Et puis le bénévole aujourd'hui, ce sera Jacques Tremblay qui a lu pour nous, pour vous, Le feu de mon père de Michaël Delisle. Nous reviendrons sur ce recueil de nouvelles qui s'intitule Du côté de Castle Rock de Alice Munro, prix Nobel de littérature quand même en 2013, rien de moins. Et puis nous allons feuilleter ensemble l'album de Gabriel Roy, que ça vient de sortir, ça de François Ricard. Car une bonne façon aussi de nous remettre en mémoire tous les titres disponibles de Gabriel Roy via le SQLA ou encore l'INCA. Et bien sûr, nous finirons l'émission par quelques titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Oh que oui, il en mange, Michel Langlois du livre audio. Bonjour Michel, comment allez-vous?
Salut Clotilde, ça va très bien.
Bon, est-ce que le moral est bon en ce début d'année 2015?
Oui, ça va super bien, oui.
Bon, les fêtes se sont bien passées.
Très bien. On est obligé de faire un peu d'exercice de plus, mais c'est bon.
C'est vrai que vous, hein, vous aimez le vélo, hein?
Ah, j'aime le vélo, la marche, ouais. La raquette,
tout ce qui bouge. Parce que le vélo en hiver, pas terrible.
Non,
quand même.
Pas terrible, non. Hein?
Et alors, justement, en hiver, il y a une activité à laquelle vous vous adonnez religieusement, je dirais, et régulièrement, c'est la lecture. De quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui, Michel?
Ça s'appelle Les Trois Sœurs,
oui.
De Norma Robert.
Oui.
Et Norma Robert, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu Les Frères Queen de elle, j'ai lu plusieurs choses. C'est un peu bizarre, cette madame-là, comme auteur, parce que c'est des livres où il ne se passe pas grand-chose.
Ah bon? Et pourtant, ils sont intéressants, puisque vous nous en parlez.
Mais on accroche, ça n'a pas de bon sens.
Ah oui.
Moi, c'est pas tout à fait la même chose, mais je compare ça un peu à des livres que j'ai lus de Michel David, où il dépeint les paysages, les personnages, mais il se passe pas grand-chose, tu sais, dans le Québec rural des années 30, là, pas de TV, pas rien.
Ouais.
Puis t'es accroché par les personnages.
Alors quels sont-ils?
Les trois sœurs de Nora Robert, c'est trois filles.
Oui.
Au début, ils sont deux sœurs. Il y en a une, c'est une artiste qui souffre du verre, puis avec un caractère de cochon.
OK.
Ça se passe en Irlande, elle est vraiment rousse, irlandaise, puis extrêmement irlandaise.
Okay.
Puis sa sœur, elle souffre du verre. Puis là, il y a un impresario, il y a quelqu'un qui a des galeries d'art, puis il veut l'avoir. Puis elle veut pas aucune contrainte, c'est une artiste.
Oui. C'est une créatrice.
C'est une créatrice.
C'est ça. C'est plus une femme d'atelier qu'une femme de boutique, de magasin.
Mais c'est bien sûr qu'il y a de l'amour entre les deux.
Ah!
Tu sais, Nora Robert, c'est la reine des amours qui n'a pas d'allure. Les contrariétés, elle l'aime, je sais pas comment ça, elle l'aime, il n'y a pas de l'air du monde, il est plate, elle l'aime pareil.
Mais j'ai lisé la critique d'un lecteur qui disait qu'on l'aimait même si elle est du mal, même si on a du mal à la suivre, et même si elle n'est pas facile à vivre, c'est vrai?
C'est parce qu'elle est sympathique, puis elle grouille, puis elle est extrême, tu sais, elle a quelque chose d'attachant.
OK.
La deuxième sœur, c'est un peu le contraire. C'est une petite madame toute fine, toute tranquille, toute douce, puis elle a manqué l'amour à cause de la vengeance de sa mère, puis là, puis d'autres personnes, puis elle run son petit bed and breakfast, puis jusqu'au jour où il y a un écrivain qui veut pas aucune attache, il est élevé dans la rue, puis là, il aboutit au bed and breakfast, puis là, là.
Bella.
Cupidon lance des flèches, tu comprends-tu?
Oui.
Mais lui, il ne veut pas s'être attaché. Elle, ne veut pas l'attacher. Il ne veut pas s'en aller. Il ne sait pas.
Bon. Ça s'en va et ça revient. Et puis voilà.
On souffre de savoir si oui ou non il va rester, tu sais.
Oui, oui, oui.
Parce qu'on l'aime bien, Blaine, qu'elle s'appelle la madame.
Oui, oui.
Puis, pour mal faire, il y a une troisième sœur qui arrive dans le décor pas mal plus tard. Ça, c'est une fille conçue hors mariage par le père des deux premières. Puis elle s'en vient par curiosité voir ces espèces de sœurs biologiques-là. Et elle tombe sur le voisin des deux sœurs. Ça fait que là, encore, lui, il l'aime, il l'attend dans ses rêves depuis longtemps. Il y a comme une espèce d'histoire mythologique, puis c'est elle qui fit comme personnage, là, avec les légendes de l'Irlande, tu comprends-tu, là?
Oui, oui, oui.
Le tricotage, la toile, là.
Surtout le tricotage en Irlande, ce que j'imagine beaucoup, ce sont les gros pulls irlandais devant
des
le
feu. Les pulls irlandais, oui.
Puis, juste pour mettre du sel un peu là-dedans, c'est les deux premières filles, ils ont une mère qui est obligée de lâcher sa carrière jeune parce qu'elle tombe enceinte, puis elle a viré à carrière, mais pas à peu près.
Mais c'était quoi sa carrière?
Chanteuse.
Ah, OK.
Fait que là, au lieu de chanter, elle fait chanter les autres, tu comprends même?
Mais oui, c'est ça.
Elle est méchante, là.
À force de chanter, elle déchante.
Hein? J'adore les expressions que vous utilisez. C'est vous qui devriez écrire, finalement.
Sophie Durocher qui vous dit que c'est vous qui devriez écrire, Michel.
Mais oui, vous avez le sens de la formule, Michel.
Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Ben, disons, à défaut d'écrire, je me sers pas mal de mon talent oratoire pour mon métier.
Oui, donc, parce que vous donnez beaucoup de conférences, hein, Michel.
Oui, ouais, c'est ça, c'est le talent que j'ai trouvé le mieux à développer.
Sur quel thème exactement? Je m'excuse, on déroge un petit peu du livre de Mme Robert, elle ne nous en voudra pas, mais sur quel thème donnez-vous des conférences?
C'est motivation...
C'est ça.
En général, ou même prévention des accidents au travail, OK, aussi. Puis je vais dans des compagnies pour dire au monde de faire attention aux yeux ou à leurs membres.
Oui,
D'être prudent avant l'accident, parce qu'après, il est trop tard.
Oui,
c'est un peu ça.
Exactement.
Donc, Laura Roberts, là, c'est une madame qui, en plus, on dirait qu'elle est comme ses personnages, pas pour rien qu'elle les écrit, parce que les bouts, elle nous tombe ses nerfs, mais on est capable de pas l'aimer. Tu comprends?
Oui, je comprends tout à fait.
J'ai jamais rencontré en personne, cette madame-là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a l'air. J'ai pas vu de photos, j'ai pas eu d'entrevue, rien, mais c'est une énigme pour moi. Qu'est-ce qu'elle a peur l'air, la madame Roberts.
Et c'est une écriture assez facile, Michel?
Ah oui.
Facile.
Oui, accessible, c'est pas...
Bon, est-ce qu'on...
C'est pas trop passant, trop, tu sais.
Non, c'est ça, OK.
Est-ce que ça finit bien? Moi, parce que vous m'avez donné mis l'eau à la bouche, là. Est-ce que ça finit dans un drame épouvantable? Sans vendre des nœuds d'intrigue,
pas...
là, mais...
Non, je peux pas... Peux pas
non! Prendre. Même
tout
si je vous sous-dois...
Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous embarquez là-dedans, là, en audio, là, vous en avez pour 35 heures.
Hein? OK, on parle d'un gros livre,
trois,
là.
Trois tomes dans un.
Là. Et c'est la même personne qui l'a lu?
Je pense que non. Je pense que ça change au troisième.
Ça change au troisième. Parce que ça, je voudrais préciser qu'il est disponible à l'INCA, hein, à l'INCA.
Oui.
C'est ça. Donc, ça c'est bien important. Et puis, en ce moment, qu'est-ce que vous lisez?
Oh, les pieds nus de... Je sais plus quel auteur.
Bon.
Là, j'ai sorti un peu des policiers. C'est trois madames. Il y en a une qui a pris du cancer. L'autre, elle vient se faire domper par son chum. Puis, c'est trois madames qui sont allées de Nantucket.
Écoute donc, trois madames, trois sœurs.
Oui,
vous faites dans la trilogie, vous.
J'aime ça, les histoires de filles. Qu'est-ce que tu veux?
La Sainte Trinité.
Il aime ça, les histoires de filles. Et Eileen Enderbrandt qui a écrit ça?
Oui. Je pense que oui.
Ben écoutez, vous savez, ici, j'ai mon bras droit d'amour.
Jean-Sébastien,
il est tu quelque chose.
Écoute.
On l'aime absolument. Et d'ailleurs, on ne le partage pas. Non, Jeannette. Michel Langlois, c'est toujours un bonheur de vous écouter, justement parce que, comme l'a remarqué Sophie Durocher, vous avez un langage tellement imagé que c'est pur bonheur de vous entendre.
Ouais, c'est gentil.
Alors, je vous rappelle quand? La semaine prochaine? Non, je vais vous laisser un petit peu de temps pour en lire d'autres, mais très rapidement.
Si je tombe sur un gros coup de cœur, là, je te le dis.
D'accord, Michel. Je vous souhaite une très belle fin de journée, puis encore merci d'avoir été là aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci, Michel.
Bye.
Merci.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et Sophie, vous l'aurez compris, l'invité spécial, c'est vous.
Ben oui, je m'y mise dans votre entrevue, Clotilde. Quel homme charmant.
Oui, hein.
Et quel talent pour la narration.
Ouais,
et
quel,
hein. Ouais, comme journaliste, on est toujours sensible. Moi, je suis toujours sensible à des formulations, des gens qui parlent ou qui s'expriment en images. Je suis toujours fascinée par ça.
Vous qui écrivez quand même vous-même.
Trois fois par semaine dans le Journal de Montréal. Puis j'ai un blog et puis j'écris dans Moi et compagnie, j'écris dans le Clin d'œil. Mais on s'abreuve à toutes sortes de sources. Hein.
Ouais,
des fois,
c'est au
détour d'une lecture, au détour d'une conversation, il y a une expression, il y a une formulation qui accroche notre oreille. Parfois, elle reste là, elle mijote, et puis des années après, ça ressort. On ne sait pas trop. Après, on ne se rappelle plus trop d'où on a sorti ça. Je pense que quand on est journaliste, on aime les mots, fondamentalement. Et donc, voilà, je trouvais que Michel avait une belle façon de jouer avec les mots et de jongler avec ça.
Et vous êtes une fervente lectrice, Sophie Durocher?
Je dois vous avouer que, oui, j'ai toujours aimé les mots. Depuis que j'ai mon fils, donc, qui va avoir 7 ans dans 2 mois.
Déjà.
Je trouve que le temps passe tellement vite que j'ai beaucoup moins de temps pour lire, pour moi-même. Par contre, ce qui est formidable, c'est de découvrir l'amour de la lecture chez un enfant, de le favoriser, de le faire naître. Bon, on espère toujours que les racines vont grandir. Mais de découvrir l'amour des livres chez mon fils, c'est extraordinaire. Mais oui, je suis une grande amoureuse de livres et j'aimerais avoir plus de temps pour en lire plus, mais j'en lis déjà quand même pas mal.
Et quels sont les livres qui vous allument le plus? On va en venir évidemment aux livres que vous avez très envie de partager avec nous aujourd'hui, mais de façon générale, qu'est-ce qui vous allume?
Pendant des années, j'ai été très roman et puis j'ai eu des passages de ma vie où c'était plus des essais.
Oui.
Je trouve, par exemple, dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont écrites, entre autres des essais féministes. Je trouve que c'est vraiment les dernières années, il y a eu des livres très importants comme Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, qui a écrit Lean In. Je me souviens plus du titre en français parce que je l'avais lu en anglais. Et pour moi, ça a été un livre extrêmement marquant. Et il ne se passe pas une journée ou pas une semaine sans que j'aie une pensée pour ce livre-là ou qu'il y ait quelque chose dans ma vie quotidienne qui m'interpelle.
Dont nous parlions d'ailleurs, je m'excuse de vous interrompre, avec Pascal Navarro que j'ai reçu.
Ça ne m'étonne pas que Pascal y ait fait référence, parce que Pascal, qui est elle-même auteur d'essais féministes, c'est sûr que ça a été un livre excessivement marquant pour plein de gens. Et donc, je trouve que, avec les années, je trouve que je continue à avoir autant de plaisir à lire des romans. Mais j'ai l'impression de rester un peu sur ma faim, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec un essai, mes neurones s'activent plus et qu'on vit dans un monde qui est tellement complexe que les essais nous aident à y voir plus clair. Mm-hmm. Et c'est pour ça que dans les dernières années, j'ai lu plus d'essais qu'avant, mais c'est plus d'évasion avec les romans, mais plus de chair sur l'os avec des essais.
Et c'est notamment le cas de ce livre dont vous avez eu très envie de nous parler. D'ailleurs, à l'époque, vous aviez signé une chronique que vous avez
J'en avais parlé dans le Journal de Montréal.
C'est Tremblement de mer de Madame Lavoie.
Diane Lavoie. Alors, c'est très particulier parce que ça n'est pas un roman et ça n'est pas un essai.
Non.
C'est quelque part entre les deux. C'est un récit biographique, en fait. Et c'est très amusant parce que quand le livre est paru... sur les sites web des différents libraires, c'était mis dans la section voyage.
C'est vrai.
Et je trouvais ça très amusant parce que c'est en effet le récit d'un voyage, c'est une façon, c'est-à-dire que c'est l'histoire de cette femme, une histoire vraie de cette femme, seule, célibataire, qui décide d'adopter une petite fille en Haïti, mais arrive le séisme que l'on sait avec ses milliers de morts et tout ça.
Alors, on est en janvier 2010, donc c'est
Et la petite fille en question arrive dans la vie de cette femme, Diane, et qui, elle, pendant des années, ne voulait pas nécessairement avoir des enfants. Le monde des enfants lui était assez étranger, mais elle a ressenti à un moment donné ce besoin-là, ce désir-là d'avoir un enfant. Et ce qui est formidable dans ce livre, Tremblement de mer, donc tremblement, évidemment, ça fait référence au tremblement de terre en Haïti, mais aussi au tremblement que ça représente dans la vie de tout être humain d'avoir un enfant, mais a fortiori un enfant adopté, et a fortiori, dans ce cas-ci, un enfant agressif, violent, qui a été arraché, en fait, à son milieu en Haïti et qui ne veut rien savoir de la vie ici. Et il y a des moments absolument déchirants dans ce livre de Diane Lavoie.
Parce qu'on n'est plus dans les images de poésie
à
l'aéroport avec le petit gamin dans les bras.
Et c'est intéressant parce que quand il y a des histoires d'adoption à l'international, on voit exactement, vous avez tout à fait raison Clotilde, des images aux nouvelles et tout ça, et on se fait une espèce de roman à l'eau de rose en disant mais quel... Et c'est vrai que c'est un don de soi absolument fabuleux d'adopter un enfant. Mais ce que Diane Lavoie fait, c'est qu'elle montre la réalité extrêmement crue qu'elle, elle a vécue. Il y a d'autres parents qui ont adopté, ça a été absolument formidable, il n'y a pas eu de passage à vide, et c'est superbe. Mais dans le cas de Diane Lavoie, c'est qu'elle a fait le choix de montrer la réalité qu'elle a vécue sans faux-semblant, elle n'essaye pas d'enrober ça dans de la guimauve, c'est très cru.
C'était ce que vous aviez écrit d'ailleurs, un récit qui n'est pas niant, qui ne fait pas dans la guimauve.
Bon, tu vois, je suis fidèle moi-même dans mes images de guimauve. Mais et ce qui fait que ça donne un livre qui est à la fois très difficile à lire à cause de la violence qui s'en dégage et du côté cru du langage, mais en même temps qui est absolument extraordinaire à lire parce qu'on assiste au fil des pages à la naissance d'un écrivain. Diane Lavoie, qui n'est pas du tout là-dedans dans son premier métier, c'est qu'elle dessine des vêtements, elle est donc créatrice de costumes, elle travaille entre autres à Radio-Canada. Et donc, ce n'est pas du tout son métier de travailler avec les mots. Et pourtant, elle a écrit là un livre qui est sûrement un des plus beaux livres québécois des dernières années. C'est écrit de façon magistrale.
Ni avec les mots, mais excusez-moi, parce que...
Avec mots, mais à lui, vous avez tout à fait raison. Est-ce que je peux en lire un petit extrait?
Mais j'allais vous le demander, Jérémy.
Voilà. Alors, je ne sais pas si...
C'est Sophie Durocher qui, je précise, pour les gens qui viendraient peut-être de se joindre à nous, qui nous parle de Tremblement de mer comme une maman, de Diane Lavoie, qui nous en lit un extrait.
Alors, j'ai choisi quand même un extrait qui n'est pas dans la partie où elle est le plus crue, où elle raconte vraiment sa relation excessivement difficile avec sa fille. Mais vous allez voir tout de suite dans l'extrait qu'on a choisi ensemble, Clotilde, c'est toute la qualité, la richesse. C'est une orfèvre. Elle est extraordinaire, Diane Lavoie. On dit qu'avoir un enfant, c'est s'assurer d'un amour inconditionnel. On dit que l'amour des enfants est pur et beau. Ben oui. Les enfants n'ont pas le choix d'aimer leurs parents. Ils les aiment, même s'ils les battent, même s'ils leur font subir les pires atrocités. Leur amour n'est pas une pure beauté, il est un besoin désespéré. Il n'y a aucun mérite à être aimé de votre enfant. Il vous aimera même si vous êtes plus toxique qu'une soupe de pétrole. On parlait d'image tout à l'heure, en voilà une assez formidable. Avec moins d'un gramme de lucidité, vous devez convenir que l'attachement des enfants n'est pas une joie simple, c'est une responsabilité de 100 fois leur poids. Qu'ils soient beaux ou laids, brillants ou crétins, présentables ou insupportables, leur amour est toujours là, vous obligeant par décence et jusqu'à la fin de vos jours à un minimum d'humanité. Il vous force à être meilleur, il vous contracte une hypothèque de tracas pour la vie et n'ont aucune intention de vous aider à effectuer les paiements. On parlait tout à l'heure de Michel avec ses images, mais il vous contracte une hypothèque de tracas et n'ont aucune intention de vous aider à effectuer les paiements. Moi, je trouve cette fille-là absolument extraordinaire. D'abord, c'est un courage extraordinaire de dire, parce qu'elle dit dans le livre à quel point ça a été difficile pour elle.
Oui.
Et je ne voudrais pas vendre la mèche de certaines choses qu'elle révèle dans le livre.
Parce qu'elle dénonce aussi,
elle dénonce le gouvernement, les institutions qui font très peu, finalement, pour aider à une forme d'insertion d'enfants adoptés. Enfin bon, elle pointe du doigt beaucoup de gens, mais la personne qu'elle pointe le plus du doigt, c'est elle-même, finalement. Et ses faiblesses et sa vulnérabilité et son incapacité à faire face à ce torrent de violence qu'il y a dans sa fille.
Mais est-ce que ça peut décourager des gens?
Moi, je vous avoue très honnêtement qu'après avoir lu son livre, j'avais absolument pas envie. Si jamais j'avais eu quelques velléités d'adopter un enfant à l'extérieur du pays, ça m'aurait vraiment... Et en même temps, on peut pas vraiment dire ça parce qu'il y a tellement d'amour. C'est ça qui est le plus renversant.
Oui, parce qu'on peut, quand même dire, sans déflorer la fin, mais c'est important de dire que elles vont s'apprivoiser.
Elles vont s'apprivoiser.
Et c'est, ça, c'est touchant.
Écoutez ça, Clotilde. C'est une histoire absolument hallucinante. Diane Lavoie écrit ce livre. Et à la suite de la publication de ce livre, elle fait la tournée de différents salons du livre. Première partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire, j'ai deux copines, mes deux plus grandes amies, un couple de copines qui vivent ensemble à Amos. OK? Et elles me donnent des nouvelles régulièrement. Et bon, bref. Et là, à un moment donné, elles me disent, Sophie, tu sais pas quoi, au salon du livre de Amos, on a fait la rencontre de Diane Lavoie, parce que mes deux amies qui sont lesbiennes ont adopté une petite fille en Haïti.
Okay.
Elles ont rencontré au salon du livre d'Amos Diane Lavoie, l'ont invitée à manger chez elle, Diane Lavoie a accepté, et depuis, les deux petites filles, donc cette petite fille adoptée par mes amis d'Amos et cette petite fille qui est au cœur de l'histoire de Tremblement de mer, sont les deux meilleures amies du monde. Et mes deux copines et Diane Lavoie partent en voyage ensemble. Elles ont créé une amitié. Et vous ne pouvez pas savoir, Clotilde, à quel point ça m'a touchée de savoir que ce livre qui m'avait bouleversée à ce point-là, que les personnages, qui ne sont pas des personnages, qui sont des gens en chair et en os, fassent d'une certaine façon
partie de ma vie,
parce qu'elles sont copines avec mes deux meilleures copines. Et donc, tout ça pour dire que oui, cette petite fille qui a vraiment eu autant de rejet pour cette nouvelle famille, ce nouveau pays et tout ça, maintenant... ça va bien avec sa maman, là, je veux dire, le drame annoncé n'est pas arrivé. Mais il n'en reste pas moins que ce qui a fait en sorte que cette histoire se finit bien, c'est une dose immense d'amour.
Oh là là.
Et ça prend ça. Parce que quand on est... Parce que, bon, ce que la petite fille avait pour sa mère, c'était de la haine, c'était du rejet, c'était... Et la seule chose
les trois
qu'on
premières
peut,
journées,
les trois premières journées, c'est terrible. C'est 72 heures de cris, c'est vraiment l'horreur. Mais je trouve que ce livre est aussi une formidable leçon d'amour.
Ouais.
C'est-à-dire que parfois dans la vie, parce que là, c'est une mère avec son enfant adopté, mais dans la vie, ça peut arriver dans toutes sortes de situations où on est confronté à un mur de haine, où on est confronté à un mur de rejet.
Ouais.
Et c'est bête à dire, mais je vis en ce moment une relation excessivement compliquée avec un membre de ma famille qui a des problèmes psychologiques. Et il rejette la société, il rejette la famille. Bon, il n'y a pas de ressources pour lui en ce moment. Et je me dis, la seule chose qu'on peut faire pour aider quelqu'un qui est dans le rejet comme ça, c'est de l'amour, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Mais ça en prend une sacrée dose quand même.
Oui.
Ça prend une sacrée dose.
Oui. Un livre important. Donc, j'étais très contente que vous l'ayez choisi pour nous. C'était Sophie Durocher que j'accueillais aujourd'hui à Livre
Découvert. Merci, Clotilde. Et puis, vraiment, j'encourage les gens à l'emprunter, ce livre, et à le lire. Parce que, oui, c'est un livre dur, un livre difficile, mais un livre qui fait du bien à l'âme.
Et je précise que nous retrouverons Sophie Durocher dans les couloirs de chez Vues et Voix, parce que Sophie, vous avez déjà lu un livre bénévolement en 2014 et vous allez revenir en 2015.
Absolument, avec grand plaisir d'ailleurs.
Et on vous en remercie.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Passez une très belle fin de journée en
Merci.
Famille.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Alors, le classique de la semaine, ça, c'est un des moments importants aussi de notre émission. Sophie, je sais que vous avez peut-être un petit Nicolas qui vous attend, non?
Oui, alors... c'est ça. J'ai mon fils qui finit l'école et donc je vais aller le chercher.
D'accord.
Ça m'aurait fait plaisir de rester, mais ce sera pour une autre fois. Donc, je ne voulais pas que les auditeurs pensent que je leur faisais faux bon, que je filais à l'anglaise.
C'est pour ça que je vous invite, si vous voulez, on va écouter La porte qui s'ouvre et c'est très bien comme ça. C'est plein de vie. Il n'y a aucun
merci
problème.
Merci et bonne lecture.
Merci à vous. Et puis, on se recontacte prochainement. Merci beaucoup. Voilà, c'était Sophie Durocher. Donc, le classique du jour, ben c'est un jeune classique. La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. D'ailleurs, Sophie Durocher me confiait tout à l'heure hors antenne. Au revoir, Sophie. Bon après-midi. Qu'elle avait lu ce livre écrit par Gaëtan Soucy, écrivain, philosophe, qui a d'abord étudié en sciences. Hein. Ensuite, il a obtenu un BA en lettres et un autre diplôme en philosophie. Et c'est quelqu'un qui a étudié la langue japonaise. Il a voyagé au Japon dans les années 90. Aujourd'hui, il est enseignant en philosophie au Cégep, Édouard Montpetit à Longueuil. Il est aussi chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal. plutôt que de vous faire un résumé, peut-être le début du livre parce qu'il dit tout. Nous avons dû prendre l'univers en main, mon frère et moi, car un matin, peu avant l'aube, papa rendit l'âme sans crier gare. Sa dépouille est crispée dans une douleur dont il ne restait plus que l'écorce, ses décrets si subitement tombés en poussière, tout ça gisait dans la chambre de l'étage d'où papa nous commandait tout la veille encore. Il nous fallait des ordres pour ne pas nous affaisser en morceaux, mon frère et moi, c'était notre mortier. Sans papa, nous ne savions rien faire, à peine pouvions-nous par nous-mêmes hésiter, exister, avoir peur, souffrir. Alors ainsi se débute ce récit absolument impossible à raconter, ne me demandez pas ça. C'est à la fois désopilant et grandiose, c'est plein de surprises, c'est plein d'enchantements, c'est porté de bout en bout par une langue qui peut sembler très farfelue, mais une langue éclatante. Et puis... Il y a un lecteur qui, à un moment donné, a écrit, il a dit « C'est un dictionnaire d'images et de doctrines où la sagesse et l'absurde se partagent. On ne sait plus l'époque, les lieux, les personnages. Nous sommes spectateurs d'un huis clos et de la confrontation entre deux mondes, le nôtre et le leur. Ils veulent enterrer donc le corps de ce papa qui n'est plus, qui ne peut plus les guider pour ça. On apprend en plus, plus tard, que la demeure est une demeure très imposante, une demeure qu'on peut imaginer style victorienne, avec entre autres une salle de bal, c'est un vrai château en fait. Et dans cette maison-là, les sentiments sont complètement inexistants. Les joies et les chagrins, tout est caché, tout est en sourdine. Même les plaisirs, les loisirs, c'est très très austère. Alors, écoutez, ce livre, c'est d'abord une langue. Je pense que ça, tout le monde est unanime à dire ça. C'est une langue drôle, colorée, sauvage, d'une inventivité absolument folle. Chantal Guy, dans la presse, avait écrit ceci le 11 août 2014. « La petite fille qui aimait trop les allumettes ressemble à un vieux conte de chevalerie détraqué, comme si cette tradition littéraire, transplantée au Québec, qui n'est jamais nommée, avait pris un autre chemin complètement fou. » Je ne sais pas combien de temps il me reste, mon petit Jean-Sébastien. Est-ce que j'ai le temps de pouvoir lire un petit extrait, une petite minute? Alors, un petit bout. Vous ne pouvez pas savoir combien il y en avait. Il me fallait 4 heures, rien que pour les étaler. Je parle de l'argenterie, évidemment. Je ne sais pas si j'ai songé à l'écrire, mais la propreté, cela me rend folle dans le bourrichon, tellement j'aime. Il y avait des cuillères de toutes sortes, de toutes les familles, et des soucoupes, et des assiettes, et des coupes, et des couteaux. Je n'en finirais pas si je disais tout ce qui se trouvait enfoncé dans les tiroirs et les armoires de la salle de bal, en or, en cristal, en argent, en verre de Bristol, en pierre philosophale, en tout ce que vous voudrez de plus émerveillant. » Voilà, c'était un extrait du classique du jour sur les ondes de Canal M. J'avais choisi pour vous « La petite fille qui aimait trop les allumettes » de Gaëtan Soucy.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde de Seille et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et le bénévole du jour, aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, la semaine dernière, je vous l'avais dit, c'est Jacques Tremblay. Bonjour Jacques.
Bonjour Clotilde.
Jacques, je suis très contente que vous ayez choisi de nous parler de ce livre-là parce qu'il avait fait partie de mes titres en rafale il y a quelques mois quand il avait été disponible et je me disais « Oh, faut que j'invite la personne qui l'a lu » et je ne savais pas que c'était vous. Alors quand vous m'avez dit « Je veux parler de tel livre », j'ai dit oui tout de suite, parlez-nous de ce livre, le titre, l'auteur et on veut tout savoir.
En fait, le prétexte, c'est que le livre vient de remporter le Grand Prix de la Ville de Montréal à l'occasion du Salon du Livre. Ouais. C'est un livre de Michaël Delisle, Le feu de mon père.
Ouais.
Et comme je l'avais lu, je l'avais perdu de vue parce que ça remonte à il y a quelques mois. J'ai demandé à celui qui l'a récupéré de l'avoir de nouveau en main et ça m'a confirmé l'intention que j'avais de vous en parler.
Qu'est-ce qui vous a tant marqué dans ce bouquin-là?
Mettons que c'est la combinaison parfaite d'une prose qui raconte des choses, qui nous les fait voir, mais en même temps qui nous en parle sur un mode, vous l'avez mentionné la semaine dernière, à la fois poétique. Il y a de la poésie dans cette prose-là, il y a de l'invention, mais il y a aussi une une immense introspection d'un auteur qui revient sur les 50 dernières années de sa vie, même les 55 dernières années de sa vie, parce que c'est un peu son histoire, l'histoire de sa relation avec son père depuis qu'il a l'âge de 1 an. Son père qui est toujours, malheureusement, vivant. Enfin, on comprend à travers la lecture du film qu'il a à l'endroit de ce père-là une relation attachement, haine, conflictuelle historiquement, parce que c'est un père violent qui ne l'a jamais ménagé. C'est une famille qui a vécu dans des conditions difficiles dans le Ville-Jacques quartier des années 60. Alors, je ne sais pas parmi les auditeurs, ceux qui peuvent associer cette image-là à un milieu dur, un milieu ouvrier, un milieu un peu dominé par la petite pègre, pas celle de Martin Scorsese et du parrain.
Non,
la petite pègre, là, je ne sais pas si je vous parle des frères Dubois du temps de ces années-là à Saint-Henri, mais c'était un peu l'équivalent à Ville-Jacques-Cartier. Et lui, cet enfant-là, est né dans une famille où le père était toujours absent. Pourquoi il était absent? Parce qu'il était avec sa gang de rue ou son gang de rue.
Okay.
Il était le second de l'oncle Léo.
Okay.
L'oncle Léo étant le cahier de cette petite pègre-là. Alors, l'histoire, en fait, les 125 pages, c'est un tout court récit, raconte un peu la confrontation de cet enfant-là avec son père, une confrontation qui avait commencé sur un mode assez rude. La première scène qui est présentée, c'est le souvenir le plus lointain qu'il a. Il avait 1 an, il était aux couches. Sa mère était entrée tard le soir, vers 11h30. Son père était en colère, jaloux, prend sa carabine et menace de tirer sa mère. Alors, sa mère va chercher le petit Michael, parce qu'il ne se gêne pas pour parler au jeu dans tout ce récit-là. Va chercher le petit Michael, le dresse devant lui comme un bouclier pour remettre le père devant une certaine responsabilité. Et cette image-là qu'il a vécu, en fait, qui renvoie à un événement qu'il a vécu à l'âge d'un an, est encore très présente
dans
sa tête.
Il la traîne avec lui.
Il la traîne avec lui, malgré le fait que son père, à travers tout le récit, a pu évoluer de petit gangster à homme réhabilité par la découverte d'un Christ, la découverte d'un christianisme, enfin, des nouveaux chrétiens. Là, un peu, je cherche le mot, mais bref, c'est comme une secte qui le gagne et tout à coup, il passe de l'image, enfin, il passe d'une association à un gang de malfaiteurs à une association apostolique.
Un symbole, c'est ça?
Un symbole de résurrection.
Est-ce que c'est le mot que vous cherchiez?
Probablement que je parlais de charismatique.
Pardon.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le livre, c'est une confrontation avec ce père-là, un père qui n'arrive pas à mourir. Et au fur et à mesure que le roman évolue, malgré que le père a eu un accident épouvantable duquel il ne devrait pas se réchapper, parce qu'il a eu les os brisés, fracturés, tout ça. Il est à l'hôpital aux soins intensifs. Il va mourir. Il a à peu près 83, 84 ans. Il devrait normalement mourir. Et donc, pour l'auteur, il va pouvoir se réconcilier, enfin, fermer l'histoire de son père. J'ai entendu une interview de Michael Delisle où il disait « Ce roman-là, c'est un petit peu moi confronté à mon Moby Dick. » C'est-à-dire mon destin. À la fois la bête qui m'opprime, qui m'obsède, mais que je dois conquérir, que je dois posséder.
Alors, je vois très, très bien. C'est une belle image, ça, je trouve, qui nous renvoie bien à ce livre-là. Vous avez un extrait à nous lire,
C'est-à-dire que,
Jacques,
pour conclure, vers la fin,
c'est-à-dire,
il constate que son père va mourir. Donc, il est à l'hôpital, il est en train d'agoniser. Alors, il vide l'appartement de son père à Montréal pendant que lui est hospitalisé à Québec. Alors, je suis tout de même, écrit-il, étonné d'apprendre par ma marraine, alors que j'achève les boîtes de l'appartement, que mon père, expédié à Montréal pour entreprendre 1 an de physiothérapie, a soudainement émis le souhait de signer les décharges qui le rendraient libre. Je m'assois sur l'unique chaise pour être certain de bien comprendre. Il y a 3 semaines, il sortait d'une opération à la colonne et il agonisait aux soins intensifs, le cou craqué et les organes presque éteints. Aujourd'hui, il veut entrer chez lui pour reprendre sa routine là où il l'a laissée. Excité par un médicament, les reins ont repris le travail et l'édème font à vue d'œil. J'apprends également que les gens de la mission vont prendre son relais, finir les boîtes et déménager le stock chez M. Sainte-Croix, un nom de prédilection, le nouveau coloc de mon père. Et là, c'est ce qui est absolument ahurissant. Je suis abasourdi et, pour ainsi dire, déçu. Spirituellement, j'attendais beaucoup de la mort de mon père. J'ai tant lu sur l'importance de ce passage pour un fils. Je n'avais jamais connu les week-ends de pêche en chaloupe, les échanges de balles dans la cour, la conversation sérieuse sur les filles et les choses de la vie, la leçon du premier rasage du menton, les cours de conduite. J'allais aussi passer à côté de son trépas. J'étais pourtant prêt. Il me semble qu'une intimité aussi intense à son chevet aurait tout réparé. Alors, c'est presque, je dirais, humoristique, mais en fait, c'est ironique. Oui. Et c'est ce qui est surprenant, c'est que Michael Delisle a réussi à traverser son existence de fils qui aura perdu contact avec son père après avoir eu un contact plutôt brutal, mais qui n'arrive pas à achever cette relation-là. Et à travers tout le roman, enfin tout le récit, il y a une multitude d'anecdotes, une multitude de personnages qui jouent un rôle extrêmement important et qui décrit finement et bellement.
Merci Jacques, c'est un petit livre, hein, je le précise, parce qu'il y a parfois des gens qui se lancent dans des sagas terribles, et puis il y en a d'autres qui préfèrent se délecter page après page de petits livres comme celui-ci, dont je rappelle le titre, Le feu de mon père, par Michael Delisle, et je précise que à la fin de l'année dernière, il avait fait partie dans la presse des quatre meilleurs romans québécois.
Et je peux ajouter une chose que j'ai trouvée dans la recherche, c'est qu'en plus de gagner le Grand Prix de Montréal, il a remporté au début de 2014 le prix Hervé Foulon. Oui. Et le prix Hervé Foulon, c'est un prix qu'on remet à un livre qu'on gagnerait à redécouvrir. Ah. Et le livre qui est en question, c'est... c'est le prix Hervé Foulon. Le titre de Michael Delisle qu'on veut rappeler, c'est « Le désarroi du matelot », qui avait d'abord été publié en 1998, repris en 2002 dans la Bibliothèque québécoise. Donc, il y a 7-8 ans, il a publié quelque chose qu'on rappelle à l'actualité aujourd'hui. Donc, c'est un auteur qui est... C'est sa bonne année.
J'espère que nous l'avons au SQLA. Et nous l'avons. Alors, c'est bien parfait. Merci beaucoup, Jacques Tremblay. Pourquoi, je l'ai coup, j'ai eu une hésitation.
Au revoir, Clotilde. C'est bien Clotilde.
Oui, c'est... Je l'adore. À une prochaine fois. Merci.
Chapitre 5. De bouche à oreille... Une page de littérature.
Ah, Cré-Jacques. Oui, la page de littérature de bouche à oreille. J'ai choisi aujourd'hui d'écouter pour vous, de vous faire écouter un extrait du côté de Castle Rock de Alice Munro, qui était prix Nobel de littérature l'an dernier, 2013. Donc, du côté de Castle Rock, en fait, c'est une série de nouvelles. Un petit résumé. Lorsqu'une famille quitte l'Écosse pour gagner la terre de toutes les promesses, c'est le rêve de la ville de la famille Laidlaw, Laidlaw, qui abandonne la vallée pauvre d'Ettrick et son existence étriquée en Écosse, donc pour rejoindre les plaines du Canada. Et là, ils vont devoir reconstruire leur univers, travailler dur, s'intégrer et s'inventer une nouvelle identité. Et deux siècles plus tard, Alice Munro se lance sur les traces de ses ancêtres. Entre autres, à un moment donné, il est écrit, il me semble imaginer ça, ils sont sur le bateau, « En cette nuit de l'an 1810, nous avons perdu l'Écosse de vue ». Ce livre raconte donc l'histoire de ces bergers échappés de la vallée de l'Étrique et de leurs descendants. Un père meurt, un enfant disparaît quelque part entre l'Illinois et le Canada. Une autre histoire laisse deviner un inceste. Un premier amour s'esquisse sous les pommiers en fleurs, tandis que le désir fait rage dans la grange. Je vous rappelle que je parle là de nouvelles, donc avec des thèmes différents. Une mère infatigable qui rêve d'échapper à sa condition décline inexorablement. Une fille aussi brillante qui s'échappe pour s'inscrire à l'université, puis se précipite dans le mariage. Peter Kemp du Sunday Times a dit « S'il y a un écrivain qui apporte la preuve que la nouvelle n'est pas le parent pauvre du roman, c'est bien Alice Munro ». David Rommel dans la presse a dit « Alice Munro est une des voix incontournables du Canada anglais et l'artiste de la nouvelle par excellence ». Je vous propose que nous écoutions un extrait de la nouvelle qui s'intitule « Du côté de Castle Rock » de Alice Munro.
Hope signifie baie. Baie non pas remplie d'eau, mais de terre, en partie fermée de collines, qui sont en l'occurrence les hautes collines dénudées, les quasi-montagnes des Southern Uplands, Black Knowe, Boatsbeck Law et Trigpen. Voilà les trois grandes collines et le mot même de colline en trois langues. Certaines de ces collines sont en cours de reforestation par des plantations d'épicéas, mais au 17e et 18e siècle, elles devaient être nues ou presque nues. La grande forêt des Trigg, terrain de chasse des rois d'Écosse, ayant été abattue, est transformée en pâturage ou en lande à bruyère un siècle ou deux auparavant. Far Hope se dresse tout au bout de la vallée, au-dessus de laquelle démarre l'épine dorsale de l'Écosse, ligne de partage des eaux qui s'écoule vers l'ouest, dans l'estuaire de la Solway et l'océan Atlantique, et vers l'est dans la mer du Nord. À une quinzaine de kilomètres au nord, il y a la plus célèbre chute d'eau du pays, la Grey Mare's Tail, la queue de la jument grise.
Du côté de Castle Rock, C-A-S-T-L-E, rock comme un rock, R-O-C-K, de Alice Munro, M-U-N-R-O, prix Nobel de littérature, je vous le rappelle, l'an dernier, un prix Nobel canadien, c'est sûr qu'on se pétait beaucoup les bretelles et on comprend pourquoi. Alors je suis contente de vous avoir fait connaître peut-être cet auteur-là et cette nouvelle telle que ça a été enregistré ici chez Vues et Voix. Ça vient juste d'arriver, donc c'est une nouveauté. Tout chaud, comme les petits croissants du dimanche matin. Ah, tiens, un petit peu de musique écossaise, tiens.
Oh, can you know hush your weeping? Together, dream.
des nouvelles et des livres.
Et retour au pays après cette musique qui nous venait d'Écosse, cette berceuse pour enfants plus précisément qui s'intitulait Dream Angus. Les visages de Gabriel Roy, c'est le prétexte pour aller revisiter. Oui, je sais, nous avions parlé de Bonheur d'occasion il y a maintenant quelques mois, mais là, il y a ce livre qui est paru au mois de décembre l'an dernier. Et ça m'a donné envie de revenir sur l'œuvre de Gabriel Roy. Ça s'intitule « Les visages de Gabriel Roy », album Gabriel Roy, en fait, ça s'intitule. C'est de François Ricard, c'est sorti chez Boréal. Et Daniel Lorrain, dans Le Devoir, qui écrivait « C'est bien la vie de la petite institutrice manitobaine, devenue romancière, célèbre et adulée, qui défile, comme dans un film, tout au long de cet album Souvenir. Sa vie, depuis sa naissance à Saint-Boniface en 1909, mais éclairé par l'aura de son œuvre dont il nous prend le goût de la lire ou de la relire. Peu de textes. Une fois passée la présentation, François Ricard laisse agir les images, ou presque. Quelques commentaires ici et là pour servir de point de repère suffisent. Parlez de même les quelques 160 documents d'archives. Les 160 documents d'archives, extraits de manuscrits, illustrations de toutes sortes, dont surtout des photos, plusieurs inédites. Alors, on voit entre autres sa famille nombreuse à Saint-Boniface, où elle est née, rue des Chambeaux qui deviendra le titre d'un de ses livres en 1955 et dont la traduction anglaise obtiendra le prix du gouverneur général, d'ailleurs. Un court extrait, tiens, de cette rue des Chambeaux. « Tu ne devines pas la douleur de se lever chaque matin et d'affronter la journée. Tu ne soupçonnes rien des nuits où l'on ne s'endort pas, épuisé d'être passé à travers des heures. Tu ne crains pas cette fatigue qui t'étrangle dès le réveil en sachant qu'aujourd'hui encore il y a la vie. » Gabriel Roy, on la voit aussi dans ce livre faire ses débuts au théâtre. On la suit en 1937 lors de son premier séjour en Europe. On la retrouve en 1943 auprès de ses sœurs à Winnipeg ou encore dans le quartier ouvrier de Saint-Henri, le lieu de prédilection de son premier roman, Bonheur d'occasion. Et puis, c'est tous ces voyages qu'elle fera, notamment à Port-au-Percy dans Charlevoix, où elle jettera les premières lignes de Rue des Chambeaux, justement, et où Jean-Paul Lemieux fera d'elle un portrait mémorable en 1953. Quatre ans plus tard, toujours dans Charlevoix, elle acquiert une petite maison à Petite-Rivière-Saint-François, où elle passera tous ses étés pour écrire jusqu'à sa mort en 1983. Depuis 1994, des écrivains québécois, d'ailleurs, y séjournent à leur tour grâce à la bourse Gabriel Roy. Ça s'appelle donc « Album Gabriel Roy ». C'est signé François Ricard. Il est certain que nous allons l'enregistrer ici, même si ce ne sera pas facile, parce qu'il y a beaucoup de photos à décrire et de documents. Mais je suis convaincue que ce sera fait. En attendant, si vous voulez vous replonger dans l'œuvre de Gabriel Roy, je vous rappelle que vous pouvez lire Alexandre Chenevert, vous pouvez lire Bonheur d'occasion, bien sûr, Ces enfants de ma vie, Cet été qui chantait, les contes pour enfants, De quoi t'ennuies-tu, Evelyne, La détresse et l'enchantement, bien évidemment, Entre fleuves et rivières, Fragile lumière de la terre, Heureux les nomades et autres reportages. Un jardin au bout du monde, Ma chère petite sœur, qu'est-ce qu'il y a aussi, Ma vache Bossy. Ça a été fait par l'INCA en 2006. Et puis La montagne secrète, La petite poule d'eau, La rivière sans repos, La route d'Altamont. On a tout ça, tout Gabriel Roy. Si vous désirez vous replonger dans cet univers, eh bien, ma foi, vous n'avez que l'embarras du choix.
Quelques nouveautés en rafale.
Et là, permettez-moi que je me récupère parce que la semaine dernière, j'ai galopé après le temps et du coup, j'ai brusqué la présentation d'un livre que je tenais beaucoup à vous présenter. Donc, je reviens dessus aujourd'hui parce que je voudrais prendre le temps de le présenter comme du monde, comme on dit. Il s'agit de Macarius, de Sergio Kokis. Macarius, M-A-K-A-R-I-U-S. Kokis, ça s'écrit K-O-K-I-S. J'ai tenté de retracer ici la jeunesse, les années de formation et les aventures du mime Macarius Stenner. Il s'agit d'un personnage qui était déjà présent dans les pages de deux de mes romans, c'est-à-dire Saltimbanque, explique Sergio Kokis en 2000, et Kaléidoscope brisé en 2001, où il jouait un rôle majeur. Et cette nouvelle mise en scène s'est avérée nécessaire parce que je ne l'avais pas alors explorée dans toute sa profondeur et comme il le méritait, dit Sergio Kokis. De ce fait,
Il avait continué à hanter mon esprit et exigeait une reprise de parole. Ce nouveau roman est ainsi un exercice de fouille archéologique dans mon propre imaginaire, à la recherche des éléments qui faisaient de lui un personnage aussi fascinant. Alors, qui était ce Macarius? Eh bien, c'était un mime. Le Miss Macarius Martinus Steiner, alias Makar Lichen, né dans une province balte de l'Empire de Russie à la fin du 19e siècle et mort à Rio de Janeiro au milieu des années 50. Et ce que fait Kokis, c'est qu'il nous fait vivre d'importants moments de l'histoire au travers cette vie, la vie de ce mime. Les horreurs vécues par les soldats allemands lors de la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas eu facile non plus. Les années folles à Berlin et à Hambourg, les premiers stalagmites nazie et la guerre civile espagnole. Il a dit quelque chose, Kokis, quand il a fini ce livre. Il dit « J'ai un problème, je trouve que Macarius est très réussi. Ça m'inhibe parce que ce roman représente 10 ans de travail, c'est une rareté chez moi et je crois que c'est le plus important de tous. » Si j'avais envie de revenir sur ce livre, c'est parce que j'ai lu à l'époque « Saltimbanque et Kaléidoscope brisé » qui existe d'ailleurs aussi chez Vues et Voix, et je m'en étais absolument régalée. Et j'ai très, très, très envie que vous lisiez ce livre-là, Macarius. On dit qu'il écrit beaucoup pour l'élite, Kokis. Lui, il préfère dire que l'excellence de certains doit être respectée, encouragée. L'écrivain ne se décourage pas, il dit « Il y a de l'espoir, le rôle de l'art reste important, il y a moyen de continuer le travail. Quand j'entends des jeunes me dire qu'un de mes livres les a aidés, mais c'est vrai qu'on ne fait pas forcément dans la littérature facile. » Alors, je l'avais amené la semaine dernière dans mes bagages, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler. L'essentiel de la PNL. Vous aimeriez transformer votre vie et renouer avec le succès, mais les lectures fastidieuses et la théorie vous ennuient. Eh bien, ce livre est conçu pour vous. Pour la première fois, Richard Bandler vous confie à son cours d'initiation à la programmation neuro-linguistique, la fameuse PNL. Alors, on vous propose d'entrer dans la peau d'un des participants et d'apprendre à maîtriser les concepts de la PNL en action. Ça s'intitule L'essentiel de la PNL, les clés d'une réussite, et c'est signé Richard Bandler, B-A-N-D-L-E-R. À l'hôtel Bertram d'Agatha Christie, c'est le polar du jour, enregistré par Point par Point. Ah, les muffins de l'hôtel Bertram, ils n'ont pas leur pareil, non plus que le thé, le personnel stylé et les clients, ladies respectables, ecclésiastiques et officiers en retraite, qui viennent y retrouver l'atmosphère d'antan. Vraiment, l'hôtel Bertram est plus victorien que nature et Miss Marple se réjouit d'y passer une semaine. Et pourtant, quelques détails la troublent. Cette jeune fille, Elvira, qui s'est amourachée d'un pilote de course peureux, recommandable. Sa mère aussi, qui est une drôle de personne. Enfin, bref, la clientèle du Bertram, d'ailleurs, comme on peut lire dans ce livre d'Agatha Christie, se recrutait depuis toujours dans la hiérarchie ecclésiastique parmi les ladies douairières de l'aristocratie arrivant de la campagne et les jeunes filles qui, sortant d'institutions coûteuses, retournaient chez leurs parents pour les vacances. Pas de mystère, pas de secret, sauf peut-être dans le livre, mais on est bel et bien dans du Agatha Christie. Un autre livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, « Comme les amours » de Javier Marias, M-A-R-I-A-S. Le résumé, chaque matin dans le café où elle prend son petit déjeuner, l'éditrice madrilène Maria Dolce observe un couple qui, par sa complicité et sa gaieté, irradie d'un bonheur tel qu'elle attend avec impatience jour après jour le moment d'assister en secret à ce spectacle rare et réconfortant. Or, l'été passe et à la rentrée suivante, le couple n'est plus là. Maria apprend alors qu'un malheur est arrivé. Le mari, Miguel Desbern, riche héritier d'une compagnie de production cinématographique, a été sauvagement assassiné dans la rue par un déséquilibré. Très émue, elle décide de sortir de son anonymat et d'entrer en contact avec sa femme, Louisa, qui est devenue un être fragile, comme anesthésié par la tragédie. Et dans l'entourage de Louisa, Maria rencontre Javier Diaz Varela, le meilleur ami de Miguel, et elle comprend vite que les liens que cet homme tisse avec la jeune veuve ne sont pas sans ambiguïté. C'est un livre dont on dit le plus grand bien, jugez-en plutôt dans le monde, une grandiose porte d'entrée dans l'univers subtil, intelligent et raffiné d'un envoûteur hors pair né à Madrid en 1951 et devenu sans conteste l'un des meilleurs stylistes espagnols. Et puis la femme qui décida de passer une année au lit de Sue Townsend, une lectrice qui nous a dit ainsi, comme tout éveillé, Eva va découvrir qu'elle vit dans une illusion, le monde tel qu'elle l'imaginait n'existe pas. Son mari qu'elle croyait fidèle entretient une relation extra-conjugale avec une collègue depuis 8 ans. Les gens la prennent pour une sainte. Bref, rien ne va autour de la vie de cette femme qui décide de passer un an au lit. Et c'est donc cette aventure-là que je vous propose de découvrir et je vous propose aussi de vous abandonner. Déjà, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à Jean-Sébastien Laliberté. Bonne lecture, mes amis, et à la semaine prochaine. Merci, c'était Clotilde Seille sur Canal M.